VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 janvier 2018. En direct de Washington, Eric Manirakiza et Michel Joseph. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les principaux titres.
L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsegno Passigna, dénonce une barbarie, la répression des marches anti-Kabila.
Au Mali, l'ex-rébellion à dominante Touareg du Nord et des groupes armés soutenant le pouvoir déplorent un manque de concertation sur la formation du nouveau gouvernement.
Grogne sociale au Tchad.
Nous, on travaille sans gants avec plusieurs maladies contagieuses que vous les connaissez.
Le personnel soignant exige le paiement des primes de garde.
Et pénurie de carburant à Lomé au Togo.
J'ai promené au moins 6 stations de Lomé sans trouver Kabila. C'est pas ce qui se passe.
Toutes les stations d'essence étaient à sec, à suivre dans la seconde partie de cette édition.
L'Iran, le théâtre de violentes protestations contre les difficultés économiques et le régime.
Pour l'instant, le journal.
De nombreuses réactions à Kinshasa à la suite de la répression de la marche à l'appel des laïcs catholiques le 31 décembre dernier. Monseigneur Laurent Monsegno, l'archevêque de Kinshasa, qualifie de barbarie la répression qui s'en est suivie. La correspondance de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systématique et que règne la paix et la justice en République démocratique du Congo, a dit l'archevêque de Kinshasa. Monseigneur Laurent Monsegno, qui s'en est également pris avec des mots durs aux hommes en uniforme et à l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo, réagissait ainsi à la répression de la marche du 31 décembre dernier. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement ni plus ni moins la barbarie. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher les fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire et le jet des gaz lacrymogènes pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, a notamment relevé l'archevêque de Kinshasa avant de s'interroger. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice et l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté de religion du peuple, fondement de toute liberté? Quelques heures avant Monseigneur Laurent Monsegno, c'est la Conférence épiscopale nationale du Congo qui condamnait la répression de la marche du 31 décembre dernier. De son côté, recevant le secrétaire général de la CENCO et quelques activistes de droits de l'homme, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobeko, a déclaré, je cite, « S'il y a eu des cas graves de violation des droits de l'homme, les auteurs seront poursuivis », fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La police a présenté hier un bilan actualisé de 5 morts. La MONUSCO dresse une liste de 8 victimes, tandis que les activistes des droits de l'homme parlent d'une dizaine.
Au Mali, les groupes armés ne sont pas contents de la nouvelle équipe gouvernementale. La CMA et la plateforme disent qu'ils n'ont pas été consultés. Toutefois, ils restent ouverts au dialogue pour la mise en application de l'accord d'Alger 2015. Kassim Traoré.
Comme par le passé, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la plateforme n'ont pas été consultés dans le cadre de la formation du gouvernement dirigé par Soumaïlou Boubey Maïga. Les mouvements signataires saisissent l'occasion pour dire que leur exclusion ne facilite pas au gouvernement la prise en compte des aspirations profondes des populations du Nord telles qu'évoquées dans l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est pour cela que la mise en œuvre de l'accord pour la réconciliation est leur préoccupation majeure. La CMA et la plateforme rappellent au gouvernement l'impérieuse nécessité d'une application intégrale et dans les meilleurs délais du dit accord. Toutefois, les deux groupes restent disponibles à coopérer sur toute question liée à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les groupes signataires de l'accord d'Alger 2015 insistent sur la prise en charge de leurs préoccupations légitimes à travers un dialogue ouvert, constructif et sincère qui doit permettre de sortir durablement de cette situation de crise généralisée et prolongée par une absence de volonté politique claire et pragmatique, a souligné les responsables des groupes armés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Libéria, le président élu Joe Weah a fixé hier des objectifs relativement modestes pour son mandat de 6 ans. Il a promis de rendre le pays autonome sur le plan agricole et de rénover les infrastructures. Dans sa première interview depuis sa victoire au second tour de la présidentielle, l'ancienne star du football a cité notamment le Ghana et des pays voisins en nombre des exportateurs des produits vivriers, affirmant que les Libériens peuvent aussi le faire. Plus de 60% des Libériens travaillent dans le secteur agricole où des multinationales ont investi largement dans les plantations d'huile de palme. Mais l'agriculture stagne en raison d'une faible productivité, contraignant le pays à importer plus de 80% des aliments de base. Le président élu George Weah a aussi promis à un autre de s'entourer d'experts et conseillers de premier rang, invitant les Libériens expatriés à revenir au pays.
Un ancien collaborateur de l'ex-dictateur marxiste éthiopien Mengistu Haile Mariam a interjeté appel de sa condamnation à perpétuité par la justice néerlandaise. Eshetu Alemu a été condamné pour des crimes commis en Éthiopie pendant la Terreur rouge des années 1970.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington a rejeté la perspective d'un dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Maison-Blanche veut notamment des pourparlers qui portaient sur le nucléaire. N'est-ce pas, Jean-Roger Bion?
Dans son allocution à la Nation du Nouvel An, Kim Jong-un a tendu la main à Séoul pour de meilleures relations entre les deux voisins. Il a aussi évoqué une participation de son pays aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Séoul a par la suite proposé de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier. Pékin, le principal allié de Pyongyang, a salué ces développements qui pourraient permettre de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule. Mais l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a qualifié de simple rafistolage des négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle a aussi rappelé que les États-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Le Nord et le Sud sont séparés par la zone démilitarisée, l'une des frontières les plus fortement armées du monde. Kim Jong-un a répété que son pays était un État nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le bouton atomique. Cette déclaration a suscité un tweet de Donald Trump qui s'est vanté d'avoir un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un.
Ici, aux États-Unis, un nouvel incendie a ravagé hier à l'aube un immeuble du Bronx, faisant 23 blessés, dont 9 enfants, quelques jours seulement après le sinistre qui a fait 12 morts dans ce même quartier de New York.
La représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, demande des réunions d'urgence du Conseil de sécurité à New York et du Conseil des droits de l'homme à Genève pour discuter de l'Iran et de ce qu'elle appelle la liberté réclamée par le peuple iranien. Au moins 21 personnes ont été tuées depuis le 28 décembre. Abdulrahman Dia.
Selon Nikki Haley, le monde ne doit pas rester silencieux. Le peuple d'Iran réclame sa liberté, a ajouté la diplomate américaine, qui n'était pas en mesure de dire quand pourraient se tenir ces deux réunions. La représentante américaine a aussi fermement rejeté les affirmations des dirigeants iraniens, accusant des pays étrangers d'être derrière les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Les manifestations sont complètement spontanées et il y en a pratiquement dans toutes les villes d'Iran, a indiqué Nikki Haley. Le président américain Donald Trump s'est réjoui pour sa part que les Iraniens agissent enfin contre le régime brutal et corrompu. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a brisé son silence hier et accusé, selon ses propres termes, les ennemis de l'Iran de porter atteinte au régime. Depuis le 28 décembre, des manifestations contre les difficultés économiques et le pouvoir de Téhéran, qui ont débuté à Mashhad, dans le nord-est, se sont rapidement propagées dans plusieurs localités du pays.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, regrette les morts et demande que les droits à se rassembler pacifiquement et à l'expression du peuple iranien soient respectés.
Le président français Emmanuel Macron a dit à son homologue iranien Hassan Rouhani sa préoccupation face au nombre de victimes et a appelé à la retenue et à l'apaisement.
En Syrie, au moins 7 civils, dont 5 enfants, ont été tués hier en Syrie dans des frappes aériennes visant une localité d'Idleb, province du nord-ouest du pays, dominée par des djihadistes. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aviation russe a appuyé les troupes gouvernementales depuis plus d'une semaine en menant une opération à la périphérie de la province d'Idleb, la seule à échapper entièrement au pouvoir de Bachar al-Assad.
Arzuma Compaoré avec vous pour la Minute Écho. Le ministre soudanais des Finances, Mohamed Othman Al-Rigabi, regrette la réticence des banques du monde entier à travailler avec Khartoum. Cela malgré la fin de l'embargo américain qui empêchait les banques soudanaises de recevoir des virements de l'étranger. Les propos du ministre interviennent après l'adoption dimanche par le Parlement du budget 2008 prévoyant la réduction de l'inflation de 34 à 19,5% ainsi qu'une politique volontariste contre la dévaluation de la livre soudanaise. En effet, le 1er janvier, la monnaie nationale était changée au taux officiel de 18 livres pour 1 dollar contre 6,9 en décembre. Aujourd'hui marque le premier jour de la vente de consommation légale de marijuana récréative en Californie, l'état le plus peuplé des États-Unis, qui par conséquent devient le plus gros marché mondial légal de la petite feuille étoilée, après avoir été pionnier de marijuana médicale depuis 1996. 8 États américains, dont le Colorado et l'état de Washington, en plus de la capitale fédérale, ont déjà légalisé la drogue douce, qui reste illégale au niveau fédéral. Le fondateur du groupe Econet, Strive Masiyiwa, qualifié d'homme le plus riche de Zimbabwe, plus de 600 millions de dollars en 2016 selon Forbes, est en discussion avec l'opérateur établi au Luxembourg, Millicom, pour l'achat de ses filiales en Tanzanie, au Rwanda et au Tchad. Si la vente est concrétisée, ce sera la première incursion du tycoon zimbabwéen dans un pays francophone. Aujourd'hui, Econet compte une trentaine d'entreprises et fournit aussi de la fibre optique. Il contrôle le groupe Liquid Telecom, premier opérateur privé dans ce domaine en Afrique, dont le réseau se déploie sur plus de 40 000 km et développe un bouquet panafricain de télévision appelé Kwese.
Nous passons directement au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et on commence avec l'Afrique. La CAF valorise les honoraires de ses officiels de match.
Et oui Eric, à partir de ce mois de janvier 2018, la Confédération africaine de football a fait part d'une augmentation de 50% des paiements des arbitres, assistants, officiers médias et commissaires de match. Désormais, les arbitres centraux et assistants émargeront 1125 dollars contre 750 précédemment. 750 dollars pour les assesseurs et 1200 dollars pour les coordinateurs généraux de match. C'est également la même somme de 1200 dollars que percevront désormais les officiers médias et les commissaires de match.
Et le sélectionneur espagnol ne sous-estime pas le Maroc, qu'il juge être un adversaire sérieux.
Tout à fait, Eric, alors qu'il va croiser la sélection du royaume chérifien dans le groupe B de la Coupe du Monde 2018. Le technicien espagnol Julen Lopetegu a indiqué que les Lions indomptables sont loin d'être une équipe facile. Avec leur nouveau coach, ils sont revenus en forme et ont de bons joueurs, a déclaré le technicien espagnol, ajoutant que le Portugal est leur plus grand adversaire dans le groupe.
Le retour de Ousmane Dembélé sur les terrains après 3 mois et demi d'absence, Yacouba.
Ernesto Valverde, son entraîneur, l'avait affirmé lundi. Son club l'a officiellement confirmé hier dans un communiqué. Gravement touché à une cuisse le 16 septembre dernier, Ousmane Dembélé est désormais à l'entière disposition de l'équipe première du Barça. L'international français pourrait donc faire son retour sur les terrains le 7 janvier face à Levante.
Et Yacouba, c'est quoi cette procédure disciplinaire contre Arsène Wenger?
L'entraîneur d'Arsenal est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour son coup de sang envers l'arbitre lors du match nul contre West Bromwich. Wenger s'était emporté contre Mike Dean après un pénalty sifflé contre son équipe en toute fin de match. Il est poursuivi pour un langage et ou un comportement inapproprié après la rencontre. Le technicien français a jusqu'à vendredi pour s'expliquer. Et pour terminer avec vous, Eric, quelques résultats de NBA, le championnat nord-américain de basketball.
DeMar DeRozan a brillé avec Toronto en marquant 52 points, un record de franchise, un record de carrière. Lundi, les Raptors ont battu Milwaukee après prolongation 31 contre 127. Il est dangereux à chaque fois qu'il enfile un maillot, a reconnu le coach de Milwaukee, Jason Kidd. et DeRozan. Il est le troisième joueur de Toronto à inscrire plus de 50 points et dépasse au passage Vince Carter et Terrence Ross qui avaient chacun marqué 51 points. Ailleurs, CJ McCollum a inscrit le panier de la victoire à 56 secondes de la fin de la prolongation pour permettre à Portland de s'imposer contre Chicago 124-120. Dans les autres matchs, Brooklyn a enfoncé Orlando 98-95 et les Lakers ont subi une lourde défaite 114-96 à Minnesota. Et c'est tout pour les sports, Yacouba. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Au Tchad, l'année 2018 s'annonce dure pour les travailleurs en général et le personnel soignant en particulier. Des remous sociaux se font sentir déjà dans les trois grandes différentes formations hospitalières de la capitale. André Kodmajingar nous fait le point à N'Djamena.
À l'hôpital de la mère et de l'enfant, le personnel observe la grève avec service minimum depuis 4 semaines pour exiger le paiement des primes de garde de certains personnels omis en 2016, des primes de responsabilité et de ristourne de 2017, les acquis sociaux ainsi que les cotisations pour la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS qui ne seraient pas versées par l'administration. Le personnel menace d'aller en grève sèche et illimitée d'ici le 8 janvier prochain si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Mustapha Tchari Mahamate, le secrétaire général de la cellule syndicale du dit hôpital.
Il y a mauvaise prise en charge du personnel. Nous, on travaille 5 ans avec plusieurs maladies contagieuses que vous les connaissez. Normalement, on devrait aller en grève sèche depuis, mais la conscience professionnelle qui nous a poussé d'observer la grève avec service minimum.
Contacté par VOA Afrique, la direction générale de cet établissement sanitaire a d'autres priorités que de répondre à la préoccupation des grévistes. Du côté de l'hôpital de la Renaissance, le personnel décide à l'issue d'une assemblée générale tenue ce mardi 2 janvier dans entrée en grève sèche et illimitée. Les raisons de ce débrayage avec le délégué du personnel suppléant, Dumtol Eric.
Nous, en tant que paramédicaux, nous revendiquons 2 mois d'arrêté de salaire. Les agents de la fonction publique qui sont affectés au niveau de l'hôpital revendiquent 4 mois des arrêtés de primes et indemnités. Et les médecins aussi revendiquent 4 mois d'arrêté de salaire. Et il n'y a pas autre alternative que d'aller en grève sèche. Au moins, c'est pour ça que le président qui dit que l'hôpital La Renaissance est son œil va écouter nos cris.
Les agents de l'hôpital général de référence nationale menacent eux aussi de cesser toute activité dans les jours qui suivent pour revendiquer, entre autres, la cotisation prélevée sur le salaire des contractuels qui ne serait pas versée à la CNPS et les arriérés de différentes primes et indemnités du personnel. Face à ce front social en ébullition, le président Déby a, dans son message adressé à la nation le 31 décembre dernier, annoncé la tenue du Forum national inclusif et les élections législatives en 2018, alors que lui-même avait déclaré que le Tchad traverse une crise sans précédent et que ces élections n'auront lieu qu'en 2019.
Le mandat de l'actuelle législature a été prorogé pour des contingences d'ordre économique. Il n'est plus d'annoncer à l'orée de l'année nouvelle que des élections législatives seront organisées en 2018.
Selon des sources concordantes, les salaires de fonctionnaires des différents départements ministériels et institutions de l'État ainsi que des éléments de forces de défense et de sécurité seront rabattus de 5 à 45% à partir de cette année. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi 4 janvier. George Weah, élu nouveau président du Liberia, une nouvelle ère en perspective pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. Dans son premier discours post-victoire, l'ancien footballeur dit vouloir améliorer la vie des Libériens et mettre fin à la corruption gouvernementale. Il a aussi appelé les investisseurs étrangers à venir bâtir le pays à ses côtés. L'ancien Ballon d'Or est-il à la hauteur des défis qui se présentent devant lui? Comment va-t-il pouvoir tenir ses promesses de campagne? Et fera-t-il mieux que la présidente sortante, Hélène Johnson-Sirleaf? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a été entendu hier à la gendarmerie. Il avait déposé début décembre une plainte contre le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, pour détention illégale d'armes à feu. Fin octobre, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait le ministre Compaoré vêtu d'un gilet pare-balles et portant une arme ressemblant à un fusil d'assaut Kalachnikov au domicile d'un député de l'opposition, un dissident qui a quitté la formation de M. Diabré. Zéphirin Diabré réclame par ailleurs la démission du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qu'il juge incompétent. Yacouba Ouédraogo a joint le plaignant, c'est Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique à Ouagadougou.
Ce que l'entretien tout classique, dès lors que vous déposez une plainte et que le procureur du Faso demande une enquête, il faut bien d'abord qu'on s'assure que c'est bien vous qui avez déposé la plainte, donc ce que j'ai confirmé. Ensuite, on vous demande les mobiles et le contenu de la plainte, ce que aussi nous avons confirmé. Il s'agit d'une plainte à la fois pour corps illégal d'armes de guerre qui est interdit par la loi au Burkina Faso, puisque M. Simon Compaoré est un civil, or il tient une Kalachnikov. Et deuxièmement, une plainte pour ménage à l'endroit donc, de ma personne. Donc ce sont les deux plaintes que nous avons déposées, que nous avons confirmées ce matin.
Vos deux plaintes restent maintenues?
Bien entendu.
Quelle appréciation vous faites de la situation sécuritaire au Burkina Faso, de façon générale?
Elle est catastrophique, en ce sens qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait une attaque. Hein. Le drame, c'est que les gens sont tellement habitués à ça que ce n'est plus un événement. Encore hier soir, le poste de gendarmerie a été attaqué. Ça devient un peu fréquent, tellement courant. Je dis, c'est ça le problème. On n'y peut pas demander attention. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de banalisation qui est symptomatique d'un échec grave de la politique que nous menons à la fois en matière de sécurité et de défense. Quand même, nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises parce que nous avons dit en tant qu'opposition que les responsables de ces départements-là n'ont pas les compétences ni la stature pour mener ces départements. À commencer par M. Simon Compaoré lui-même. Et nous avions demandé il y a quelques semaines qu'il soit démis de ses fonctions. Sérieusement, il n'est pas à sa place.
Le constat aussi qu'on pourrait faire, hein, c'est que ces derniers temps, il y avait une sorte d'accalmie par rapport à ces attaques terroristes-là. On pourrait mettre cela à son actif?
Non, ça dépend parce que en fait, les gens confondent les choses. Vous voyez, il y a les attaques spectaculaires, genre ce qui s'est passé sur Kwame Nkrumah. Là, c'est une chose, mais il y a les attaques quotidiennes que l'on a. Il ne se passe pas 24h, 48h, sans qu'un véhicule de police de gendarmerie ou d'une patrouille de sort sur une mine ou qu'un poste de gendarmerie soit attaqué et les assaillants viennent, brûlent les bâtiments et récupèrent les armes et les motos. Et ça passe inaperçu parce que ça n'intéresse pas la presse internationale. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est quand on parle de morts par dizaines. Alors que là, tous les jours, pratiquement, il se passe une journée ou deux journées sans qu'on ait ces attaques-là. Ça veut dire que ces ennemis-là, non seulement ne sont pas vaincus, mais qu'ils sont en train de se réorganiser d'une manière physique avec notre propre matériel pour nous attaquer demain. Et c'est donc c'est symptomatique. Il y a un deuxième aspect que l'on dit, c'est que le Nord est une zone qui est maintenant pratiquement contrôlée par ces gens. Beaucoup de fonctionnaires de l'État ont peur d'y aller. Les écoles sont des lieux où on ne fait plus enseigner les enfants. Il y a des villages qui sont entièrement délidés par leur population parce qu'ils ont peur. C'est ça la réalité. Donc, c'est un échec.
Et pensez-vous que tout cela soit lié à l'incompétence du gouvernement en général ou à celle de M. Simon Compaoré en particulier?
Bien entendu. Nous, on parle, chacun voit un peu le lit à sa porte. Hein. Nous avons des gens que nous avons élus, ils ont une mission à remplir, ils ne la font pas correctement. C'est qu'ils sont incompétents.
Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Depuis une semaine, le carburant se fait de plus en plus rare dans la capitale togolaise. Mais le pic, c'était hier mardi. Pour trouver du carburant, il fallait faire le tour de la ville et des fois sans succès. Le reportage à Lomé est signé Kayi Lawson.
Pour trouver du carburant dans l'après-midi de ce mardi 2 janvier à Lomé, il faut aller dans la station-service sur le boulevard de la Paix, à côté du rond-point Amina et nulle part ailleurs. Dans le centre-ville de la capitale togolaise, toutes les stations d'essence sont à sec. Dans cette seule station où les pompiers sont encore en service, c'est une affluence inhabituelle. De longues files de voitures se sont formées pendant que les motocyclistes s'agglutinent autour des distributeurs de carburant. Nous y avons rencontré des usagers désemparés.
Il n'y a pas de carburant. J'ai tiré ma moto depuis Gakpoto jusqu'ici, pas descendre dans les stations.
J'ai promené au moins 6 stations de Lomé sans trouver carburant. C'est pas ce qui se passe.
Partout, il n'y a pas le carburant. C'est par quelqu'un qui a appris qu'il y a carburant ici. Et arrivé ici, j'ai fait banalement 1h30 ici.
On est dans les rangs, on fait banalement 30 à 45 minutes.
J'ai circulé dans presque toutes les stations d'essence, mais il n'y en a pas. Même ceux qui vendent les carburants frelatés au bord de la route, il n'y en a même pas. J'ai fait plus de 15 km pour arriver à Total Décon, comme ça, mais toujours pas.
Partout où j'allais pour me préoccuper de carburant, il n'y a pas de carburant.
Partout où on arrive, on dit qu'il n'y a pas de carburant. Ils ne donnent aucune raison qui prouve que vraiment il y a telle chose.
Pour Kofi Tosu, chauffeur de taxi, cette situation n'est pas inédite. Il donne ses explications.
Souvent, les fins d'année, là, on a une pénurie d'essence dans les stations parce que les les revendeurs ambulants, ils vont dans leur pays, ne reviennent pas, donc on a les pénuries. Les stations ne sont pas nombreuses pour nous servir, quoi. C'est ça qui cause ça.
Bruno Adegno, chef service commercial d'une compagnie pétrolière à Lomé, n'écarte pas totalement la thèse des vendeurs ambulants. Mais ce n'est pas la principale raison de cette pénurie, affirme-t-il.
La raison qui explique fondamentalement cette rupture, c'est que le week-end a été un peu long. Et puis, nos confrères ne sont pas approvisionnés à temps comme il le faut. Donc, ça a créé cette rupture. Tout autour de notre station, il y a des stations qui sont en rupture. Alors, cette rupture a créé automatiquement cette affluence sur notre station.
Il n'y a aucune augmentation en vue, rassure Bruno Adegno.
Non, loin de là, puisque nous venons d'avoir la structure de prix. Donc, il n'y a pas eu une augmentation en vue. À ce que moi je sache, il n'y a pas eu une augmentation. Donc, ce n'est pas une augmentation en vue qui explique ce qui se passe actuellement.
Le souhait des usagers togolais est que la situation revienne rapidement à la normale afin d'entamer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que plus de 800 000 personnes dans le monde meurent chaque année de l'eau insalubre. Mais des chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, ont mis au point un dispositif simple et peu coûteux pour traiter de l'eau contaminée, comme l'explique Kevin Inox de la VOA dans ce reportage relaté par Jacques Aristide.
Le canal de Gowanus à Brooklyn, dans l'État de New York, est considéré comme l'un des plus pollués du monde. C'est un mélange toxique de polluants qui se déverse dans ce canal, vieux de plus de 150 ans, métaux lourds, pesticides et eaux usées. Mais des scientifiques du MIT de Boston planchent sur le traitement de cette eau, tout simplement en ayant recours aux conduites électriques. Xiao Su est chercheur au MIT.
In red, we have the positive electrode.
En rouge, c'est l'électrode positif et en vert, l'électrode négative. Dans le noyau cellulaire, nous voyons les particules polluantes. Nos électrodes entrent en contact avec l'eau et en absorbent les polluants, ce qui entraîne le baou magnétique à agiter.
Mais ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Les électrodes sont recouvertes de polymères spéciaux qui ciblent chaque polluant et c'est cela qui rend ce procédé si unique. Alain Aton du même institut.
Bien qu'il y ait de nombreux types de dispositifs de séparation basés sur les forces motrices de l'électricité, ils n'ont pas les caractéristiques dont nous avons besoin, car incapables d'absorber les micropolluants à très faible concentration. Donc, notre idée était de pouvoir couvrir les électrodes de polymères et de les recharger afin qu'elles soient capables, par exemple, d'extraire une molécule spécifique d'un contaminant organique à partir des centaines d'autres molécules. Si nous pouvons le faire de manière sélective, ça sera les gros lots. C'est ce que nous avons mis au point.
Non seulement l'eau est propre, mais le dispositif lui-même est plus écologique que les méthodes de traitement actuelles qui utilisent la chaleur, la haute pression ou même des produits chimiques. Alain Aton, à nouveau.
Et ce que nous aimerions faire, c'est avoir une technologie qui permettrait de basculer l'interrupteur, qui permettrait à son tour d'extirper les polluants et de régénérer les systèmes.
Les chercheurs croient que ce dispositif de traitement d'eau peut vite aller au-delà des tests de laboratoire pour être utilisé dans la vie de tous les jours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Patrick Dare. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Eric Manila Kidza à Washington. Profitez de votre vie. et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.